Vous écoutez France Culture.
Comédie française, école d'acteurs. Ce soir, Olivier Barrault, écrivain et journaliste, s'entretient avec Laurent Lafitte.
Et je voulais, Laurent Lafitte, vous poser tout de suite une question. Nous allons procéder à cette conversation détendue, documentée, etc. Bon, quand je vous ai dit, mais est-ce que vous ne jouez pas le soir même à Richelieu ? Si. Oui. Ça ne vous gêne pas plus que ça de passer d'une scène à l'autre, d'un univers auto-centré quand même, parce qu'on va parler de vous et de ce métier, à quelque chose qui est le travail collectif d'une troupe, d'un metteur en scène, d'une femme en l'espèce, avec tous vos camarades? Non, pas du tout. Vous n'avez donc ressenti aucune, je dirais, prévention? Est-ce l'absence de trac ou c'est au contraire une manière de sublimer le trac?
Pas de le sublimer, de le contrer plutôt, parce que si j'arrive trop tôt au théâtre, j'ai trop le temps de réfléchir et le trac monte. Ouais. Donc il faut que je reste assez actif jusqu'au dernier moment, donc ça ne me gêne pas du tout de faire autre chose juste avant.
Ouais. Une journée comme aujourd'hui, pour vous, est-ce qu'elle est différente de celle où vous ne jouez pas la comédie ?
Oui, j'ai tendance à un peu m'ennuyer quand je ne joue pas. Et en même temps, ça me fait peur, ça. J'ai pas du tout envie de m'ennuyer quand je ne joue pas. Donc, heureusement ici on joue beaucoup. mais c'est vrai que j'ai, oui, non, la journée n'est pas la même. Si je sais que j'ai ce rendez-vous le soir au théâtre, je suis pas dans la même énergie. Disons que quand je joue le soir, même si je peux faire d'autres choses la journée, il y a cette petite case dans ma tête qui se prépare dès le matin, une espèce de case d'une disponibilité qui se fait. Et une énergie qui se réserve, mais d'elle-même, pour le soir.
Ouais. Comment ça se passe les jours où vous tournez pour la télévision ou pour le cinéma ? J'imagine que c'est dans la journée, si vous êtes par ailleurs requis sur l'un des plateaux de la Comédie Française, le soir.
Oui. J'ai tourné un film pendant le système Ribadier, au Vieux-Colombier. C'était une erreur. Parce que...
Ça s'est pas trop vu du côté du Vieux-Colombier.
Non, ouais. Le film s'est très bien passé et Ribadier s'est très bien passé, mais physiquement, j'ai senti que là, j'étais quand même, je poussais un peu les limites.
Un grand garçon comme vous.
Oui, un grand garçon comme moi, justement. Il faut que cette masse de corps ait suffisamment d'énergie pour être performante. Mais du coup, je m'organisais, je faisais des siestes, je m'organisais. Ouais. Mais c'était beaucoup de... Disons que Ribadier, c'était un rôle très, très physique. C'est fait d'eau, forcément, donc le fait de tourner 12 heures juste avant, c'était pas forcément l'idéal.
Ouais. Malgré tout, malgré la distance supposée du comédien avec son rôle, si j'ai bien lu Diderot, malgré ça, vous éprouviez l'épuisement physique tandis que vous jouiez Ribadier au Vieux-Colombier.
Oui, alors sur le plateau, non.
Non.
Une fois sur le plateau, non, mais ça m'arrivait de m'endormir pendant qu'on me posait ma perruque. Ouais. Les 20 minutes que j'avais entre le mototaxi du tournage et Ribadier, je m'endormais en me collant ma moustache, quoi. Mais en même temps, je ne me plains pas de ça du tout. J'ai longtemps rêvé d'être débordé par mon métier et de lui consacrer toute mon énergie. Donc, je veux pas du tout donner l'impression de quelqu'un qui serait qui se fatiguerait lui-même ou je suis ravi d'être débordé, d'avoir un métier si chronophage, ça me rend heureux en ce moment.
Oui, mais ça sera comme ça tout le temps. Il y a aucune raison que
peut-être,
ça change.
Peut-être qu'un jour j'aurai envie que ce soit un peu plus calme.
Ouais.
J'espère que ça coïncidera avec les envies des metteurs en scène et du public.
Pour l'instant, nous ne sommes pas tellement inquiets pour vous. Je sais pas
pourquoi. Merci,
comme c'est ça, gentil. Oui, on a le sentiment que précisément l'adhésion du public, que ce soit d'ailleurs le public du théâtre, du cinéma, de la télévision et aussi de la radio, parce que ça c'est assez singulier dans votre parcours. Ce travail avec Zabou Breitman, qui est décidément quelqu'un qui compte dans votre vie professionnelle.
Oui, c'est une artiste sœur. C'est vraiment, c'est amusant parce que ce métier offre des rencontres. Comme, enfin, moi, je connaissais Zabou en tant qu'actrice depuis longtemps. On a 10 ans d'écart, donc on n'est pas non plus, il n'y a pas une grande différence. Mais disons que je l'ai connue jeune. Et je me suis toujours dit, j'ai toujours senti qu'on appartenait à la même famille d'artistes. Mais évidemment, moi, j'avais 20 ans, elle en avait 30. Il n'y avait pas de raison qu'on se rencontre vraiment. Et quand on s'est rencontrés et d'être conforté dans cette impression-là, c'est très très agréable. Surtout avec le bout de chemin qu'on a fait ensemble et qu'on continue à faire ensemble.
On n'est pas du tout dans la chronologie et ça n'a pas d'importance. Je voudrais qu'on continue à réfléchir ensemble sur le travail que vous avez entrepris avec elle. Comme beaucoup de gens dans cette salle, j'ai vu le système Ribadier, dans lequel vous avez, entre autres, comme partenaire, quelqu'un que vous retrouvez ici même, d'ailleurs, régulièrement, qui est dans Candide, qui est Laurence Stocker. Et je voudrais qu'on réfléchisse ensemble et que vous nous racontiez, si vous voulez bien, précisément ce qu'est la pratique du comédien que vous êtes dans un cas comme celui-là. Il faut rappeler, pour ceux qui n'auraient pas vu le système Ribadier, que cette pièce, qui n'est pas une des plus réputées, une des plus connues de Feydeau, est une pièce dans laquelle deux personnages, joués par les deux Laurent, qui d'ailleurs partagent la même loge ici même, vont devoir s'affronter, se rencontrer et dialoguer. Et il m'a semblé, mais dites-moi si je me trompe.
Je vous dirai.
S'il vous plaît. J'ai eu l'impression que le parti pris, ou l'idée de Zabou Breitman, que j'ai trouvé vraiment extra, tout à fait rare, c'est qu'on sait que chez Feydeau, ce qui compte, c'est bien sûr la situation. C'est pas un écrivain au sens où l'est Labiche. Par contre, c'est un fabricant de situation.
Et du dialogue aussi.
Ouais, bien évidemment. Et vous êtes à un moment dans une situation d'affrontement plaisant, mais d'affrontement quand même avec Stocker, où j'ai eu le sentiment que Zabou vous avait fait jouer cette scène qui culmine de manière de plus en plus accélérée, que vous jouiez de plus en plus, que les répliques que vous échangiez, qui étaient d'ailleurs parfaitement intelligibles, mais en même temps extrêmement difficiles à dire, surtout à ce tempo-là, étaient de plus en plus rapides. Est-ce que je me trompe ou pas ?
C'est la scène où on répète plusieurs fois on répète plusieurs fois la même scène. Ouais. Oui, c'était un accident de répétition en fait au départ, parce que on dit souvent la même chose dans cette pièce, et du coup parfois on mélangeait un peu les scènes. Et là, on était reparti sur le début de la scène. On se dit non, mais ça je l'ai déjà dit ça. Oui, mais c'est pas continu, c'est pas grave, continue. Alors on a continué en allant un peu plus vite, et puis en fait on s'est amusé à le répéter plusieurs fois comme un crescendo dans la folie qui s'emparait des personnages à ce moment-là de la pièce. Mais ça n'est pas dans la pièce. C'est ce qui est magnifique dans les répétitions, c'est les accidents qui se passent, qui nous font rire en l'occurrence, et qu'on garde, ce qu'on propose au metteur en scène, qu'elle va décider d'acheter. Voilà, c'était un accident au départ. Par contre, après il y a du travail. Après, il y a l'accident, et après il y a le travail. C'est-à-dire qu'après, il a fallu que déjà qu'on puisse suffisamment articuler ce texte pour le pousser à une vitesse la plus grande possible. Et puis il fallait aussi qu'on cale des gestes qu'on allait pouvoir reconnaître dans chacune des répétitions et des mots après, parce que la dernière version, c'est une espèce d'onomatopée et avec juste des mots rendez-vous. Qu'on avait par contre parfaitement entendu dans les deux premières versions, un peu plus lentes.
Il n'y a pas d'improvisation dans ce que vous faites, Stocker et
pas
vous,
du
à
tout.
Ce moment-là.
Non, pas du tout, du tout.
Ouais. Ouais. Est-ce que, autour de ce spectacle, il s'est vraiment passé quelque chose dans le domaine du déclenchement du rire, quand même. Dieu sait que c'est courant, heureusement. Mais à ce point-là, on ne le voit pas tous les jours. Il me semble que le public a été très frappé, en dehors du comique, par... je dirais la texture physique de votre travail à tous les deux. Je me souviens vous avoir rendu visite dans votre loge à la sortie du plateau, loge que vous partagiez avec Stocker.
Et on a commencé à penser.
Oui. On dira ce qu'on dira, plus peu nous chaud au demeurant. Et puis
c'est valorisant pour lui, mais c'est vrai que pour
moi. Oui, vous savez comment ils sont.
Bon, voilà. Écoutez. Allez, laissons courir.
Oui. Mais d'autant que j'ai cru comprendre qu'il y avait dans la salle quelques acteurs de la troupe, donc c'est peut-être pas la peine d'ébruiter des choses. Vous voyez ce que je veux dire.
Bon,
non, ça peut être délicat, etc. Sérieusement, je vous ai vu tous les deux dans un état de, j'allais dire de délabrement, c'est plus que d'épuisement, c'est un état de viduité, c'est-à-dire que le Feydeau est tellement fort, tellement riche, tellement exigeant pour vous. qui êtes sur le plateau, que il y avait plus rien, c'est-à-dire qu'il fallait revenir au monde, quoi.
C'était un spectacle très très épuisant physiquement, ouais, vraiment épuisant. Parce que déjà c'est une pièce de Phèdre dans laquelle il y a pas beaucoup de personnages. C'est rare, du coup il faut occuper le temps, donc on se répartissait moins les efforts, on va dire. Mais oui, c'était, et puis les directions de jeu de Zabou étaient très 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 énergiques et très sur le rythme, et elle avait raison. Et on ne peut pas s'économiser sur ces spectacles-là. Enfin, sur aucun spectacle on ne peut s'économiser. Mais là, en l'occurrence, physiquement, on ne peut pas être un peu en dessous. On peut pas se dire bon, là, je suis fatigué, je vais y aller un peu plus tranquille. C'est impossible. Sinon, ça ne marche pas, et on n'est pas là pour que ça marche pas. Donc c'est sûr qu'on changeait trois fois de chemise, mais c'était comme après un bon footing. C'est une fatigue qui est agréable. C'est plus dur de dormir, par contre, après. Il faut que ça redescende.
Ouais. Revenons un peu en arrière. Vous êtes lycéen, je présume, peut-être écolier, vous allez nous le dire. La première fois que vous voyez un spectacle de théâtre, vous avez quel âge ?
Je pense que je devais avoir une dizaine... Au théâtre ou à la télé ?
Ouais, au théâtre.
Au théâtre, je devais avoir, je pense, 13 ans. 13-14 ans, c'était un Molière, et je ne sais plus lequel c'était.
Ouais. C'était où ?
C'était une sortie scolaire. Je ne sais plus du tout, c'est un souvenir très 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 vague, je m'étais beaucoup ennuyé. C'est pour ça que j'ai pas un souvenir très net.
Donc aucune vocation à l'issue de ce spectacle.
À l'issue de ce spectacle, non.
Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup vous dites pourquoi pas moi ?
Mais c'était avant, pourtant ça commençait à germer, le désir de devenir comédien commençait déjà à germer à cet âge-là, mais c'était plus par la télévision ou par le cinéma. Et c'était pas par le théâtre. Mes parents ne m'emmenaient pas au théâtre, et la seule fois donc où j'y étais allé, c'était lors de cette sortie scolaire. Mais j'ai pas une vocation théâtrale à la base. L'image que j'avais du théâtre, c'était ce que je voyais au théâtre ce soir, puisque ça, c'était le théâtre qui venait à la maison. Ça a été mes premières interrogations, mes premiers intérêts par rapport au théâtre. Et puis ça me faisait rire, donc je trouvais ça magnifique. Et puis je voyais des gens sur scène qui faisaient rire d'autres gens. Je trouvais ça extraordinaire. Et c'était notamment les pièces de Pierre Barillé et Monsieur Grédy. Je sais que Pierre est là aujourd'hui, ça me fait très 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 plaisir, parce que si quand je regardais ces pièces-là, on m'avait dit entre autres, Lily.
44 ans.
Non, celle-là, je... Non.
C'est dommage, parce que le créateur du rôle principal est dans la salle aussi.
C'est vrai ?
Ouais. Il y a que des amis ce soir.
Bon, c'est bien.
C'est souvent comme ça, d'ailleurs. Oui, et puis d'autres, Fleurs de Cactus, peut-être ?
Oui, ouais. Absolument. Donc voilà, moi, c'était ma référence. Pour moi, c'était ça, le théâtre. C'était ça. Et c'est ça qui m'attirait. Je voulais faire du boulevard. Pour ce qui est du théâtre et du cinéma, au tout début.
Alors, vous prenez conscience de ça. Et après ça, il faut mettre en pratique cette intention. Comment les choses se passent-elles pour vous ?
Pour moi, c'était la télévision. Ma première expérience, j'avais 15 ans, et mon père lisait France Soir, entre autres. Et j'avais repéré qu'il y avait des petites annonces pour des castings de temps en temps dans France Soir. Donc, je piquais régulièrement France Soir, et j'avais repéré une annonce. Il cherchait un ado de 15 ans pour un téléfilm avec Michael Lonsdale pour FR3 à l'époque. Ouais. Oh, des anecdotes. Ouais. De personnes
très
âgées,
bonne chaîne.
Oui. Donc voilà, c'était pas encore France 3. Et j'ai envoyé un petit photomaton, puisqu'évidemment, j'avais pas de photo professionnelle à l'époque. Et j'ai rencontré le réalisateur qui m'a engagé pour ce téléfilm. Ça a démarré comme ça. Et là, j'ai découvert un tournage. Et ça a été un choc total. Et je ne pouvais plus retourner en cours. C'était pas possible.
Ouais.
C'était impossible. J'avais été traité comme un adulte. J'avais fait le métier dont je rêvais. Je pouvais pas retourner à l'école. J'avais l'impression de... Non, c'était impossible, impossible. Mais j'avais l'impression d'avoir pris 10 ans, en fait, dans le désir d'indépendance et dans la nécessité d'indépendance.
Et alors, du coup, vous portez candidat à un cours d'art dramatique ou...
Oui, je vais au cours Florent, puisque c'était le plus connu. Moi, je connaissais personne dans ce métier-là, donc je suis allé à l'endroit dont j'avais le plus entendu parler.
Ouais.
Donc, j'intègre les cours Florent.
Oui. Qui sont vos enseignants, vos professeurs ?
Ma première professeure est Valérie Nègre, qui est enseignante là-bas depuis très très longtemps et qui est assistante metteur en scène, qui a beaucoup travaillé avec Chéreau notamment. Voilà, elle a été ma première professeure. Et avec elle, j'ai découvert qu'il fallait travailler. Et ça, j'avais un peu sous-estimé ça. Mais je suis un peu un rescapé des ambitions un peu crasses, un peu bêtes. J'ai eu des ambitions un peu bêtes. J'ai rêvé beaucoup d'être une star de cinéma, quoi, ouais, d'être Bébel, quoi. Moi, j'avais la culture des vedettes populaires et je rêvais de devenir une vedette populaire. Pas tellement pour l'ego trip, mais surtout pour donner du plaisir aux gens et recevoir avoir de l'amour en retour. Et voilà, une vision un peu bébête. En tout cas, pas bébête, non, c'est pas vrai, mais une vision un peu.
Ça vous est quasiment arrivé maintenant, ça, d'être une vedette populaire?
Non, je pense pas être une
vedette populaire. Vous avez 40 ans, mais enfin bon, ça va pas si mal.
Non, je pense pas. Non, j'ai découvert, c'est un métier qui m'a fait beaucoup grandir. Surtout, je n'ai pas fait d'études supérieures, j'ai arrêté mes études en seconde. Donc, c'est un métier qui m'a empêché d'être un culte aussi. Et grâce au conservatoire, j'ai
alors, venons-en au conservatoire. Oui, le conservatoire, ça ne forme pas forcément des futures vedettes populaires. Ça forme des comédiens.
Oui.
Racontez-nous ça alors, parce que vous quittez Florent. Vous vous présentez au concours du conservatoire.
Je quitte Florent, mais je termine Florent. Mmh. Je passe le concours de la classe libre à Florent. Je suis reçu, donc je fais mes 2 années de classe libre. Et entre-temps, je tourne quand même. Ouais. Parce que j'avais un agent, donc je tournais un petit peu, par-ci, par-là, 2-3 jours de tournage par-ci, par-là. J'ai fait mon fantasme du Théâtre de Boulevard. Je l'avais réalisé également, puisque j'ai joué dans Croque-Monsieur, de Marcel Mitois. Désolé, ouais. Pierre. Oui. Ça n'était pas.
Mais attendez, la soirée n'est pas terminée. On va se voir après.
Ça n'était pas une pièce de Barry et Grédy. Donc, j'ai joué Mon Boulevard, enfin, Mon Boulevard. Voilà, mon boulevard que je voulais faire avec Marthe Villalonga, Croque-Monsieur.
Et pièce au demeurant.
Bonne pièce au demeurant, absolument, et en tournée à Paris au théâtre Donou. Mmh. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je me contenterais pas complètement.
Ouais.
Et puis, entre-temps, j'avais eu quand même... Je m'étais beaucoup plus intéressé au théâtre. J'étais allé voir beaucoup, beaucoup de théâtre, évidemment. Et puis, j'avais été particulièrement remué par le Hamlet de Chéreau, que j'avais vu en reprise à la Villette, avec de Sarthe. Et là, je sais pas quel âge je devais avoir à l'époque. Je devais avoir 20 ans. Et là, j'ai découvert un théâtre, mais que je ne pouvais pas soupçonner. Je me souviens de ce décor très, très plat, le palais d'Hamlet en bois, comme le reflet d'un palais dans un lac. Enfin, cette espèce de liberté scénographique, cette espèce d'horizon infini qui dépassait de loin, évidemment, le salon bourgeois avec l'escalier, la mezzanine, la bibliothèque et le lustre. Je ne connaissais que ça.
Mais comment
et là, c'est un tsunami pour moi, émotionnel et culturel. Un tsunami total. Et là, je me rends compte qu'il faut que je reprenne tout à zéro. Et je passe le concours du conservatoire. Voilà pourquoi j'arrive à ça. Parce qu'en fait, c'était un désir de repartir à zéro. C'était pas comme une continuité de mes études parce que j'étais en limite d'âge. J'avais 23 ans. Oui, c'est ça. J'avais 23 ans. Donc c'était ça. J'ai passé le concours 2 ans après avoir vu Hamlet. Et donc voilà. Je me suis dit, il faut que je recommence tout à zéro. Et l'endroit idéal par rapport à ce nouveau théâtre pour moi, qui commençait à m'intéresser, c'était le conservatoire. Donc je passe le concours.
Et vous êtes reçu.
Oui.
Quelle classe du conservatoire? Quels sont vos professeurs?
Alors j'ai eu une certaine Muriel Mayette en première année. Et en deuxième année, Philippe Adrien. Oui. Et Philippe Adrien, dont j'avais vu en attendant Godot, à La Tempête, pareil, ça avait été un des nouveaux moments de théâtre que je découvrais à cette époque-là. Donc j'étais content de l'avoir comme professeur. Et je n'ai pas fait ma troisième année, je ne l'ai pas regretté, mais disons que c'est l'année où Chéreau venait monter Richard III. Il avait fait évidemment le tour des classes et il avait constitué son équipe. J'en faisais partie, j'étais fou de joie de travailler avec lui, mais j'ai eu l'opportunité de partir à Londres faire ma troisième année, ce que je souhaitais beaucoup. Et j'étais en même temps un peu gêné de décliner une
proposition de chez
moi. Oui, enfin, je déclinais pas une proposition, mais. Enfin, je suis allé le voir et je dis voilà, Patrick, je suis très embêté parce que je rêve de travailler avec vous depuis que j'ai vu Hamlet. Et là, en même temps, j'ai la possibilité d'aller à Londres faire ma troisième année. Tu sais, ça ne se reproduira pas. Et il m'a dit, mais quitte à bosser Shakespeare, autant que vous alliez le travailler en Angleterre. On se retrouvera sur autre chose. Bon, malheureusement, on ne s'est pas retrouvé. Voilà, donc je suis parti à Londres.
Venons-en à l'Angleterre. Vous avez été élève d'une école assez célèbre au Royaume-Uni qui s'appelle la Guildford School, je ne sais pas quoi.
Enfin, Guildford School of Acting.
Of Acting. Ça, c'était après la dernière année à Londres, où ça faisait partie de l'enseignement
Non, c'est l'enseignement que j'ai reçu en Angleterre. C'est ma troisième année du conservatoire, je l'ai faite là-bas. C'est une école qui est spécialisée dans la comédie musicale. Parce que c'est encore un des répertoires que j'aime... Enfin, il y a à boire et à manger. Bon, il y a des choses, on est vraiment à la limite du concours de l'Eurovision. Mais il y a quand même des choses dans le répertoire anglo-saxon, puisque nous, on s'est arrêté à l'opérette et malheureusement, on n'a pas suivi cette évolution-là. Il y a des choses dans le théâtre anglo-saxon, notamment du côté de Stephen Sondheim, qui sont des œuvres théâtrales majeures, enfin musicales aussi, mais qui ont une puissance dramaturgique et une qualité d'écriture totalement théâtral, pas du tout un genre à mépriser du tout. Et je voulais me frotter à ce répertoire-là. Et puis ce que j'aimais beaucoup, c'est j'aime bien l'approche pragmatique des Anglais par rapport à ce métier. Donc il faut travailler, quoi.
C'est-à-dire qu'est-ce qui est très différent précisément entre la doctrine anglaise en l'espèce et la française? Vous parlez de pragmatisme, ça veut dire
quoi?
Oui,
c'est-à-dire qu'il y a un rapport à ce métier qui est presque... Il y a un côté artisanal. Disons que je pense qu'en France, on est un peu plus cérébraux, un peu plus intellectuels aussi. On a une approche souvent peut-être un peu plus intellectuelle. Et une certaine pudeur par rapport à l'efficacité que n'ont pas les anglo-saxons. Moi, j'ai l'impression que parfois au conservatoire, que efficace ou divertissant, ça pouvait être péjoratif, voire être une insulte au théâtre.
Et vous vous sentiez donc attiré par le fait de chanter, de danser, de jouer, toutes choses qui me paraissent personnellement extrêmement difficiles à associer. Mais vous, vous l'avez fait. Et quelques Français, d'ailleurs, vous avez précédé. Cassel, Jean-Pierre Cassel, Sacha Distel aussi.
Oui, Sacha Distel, il jouait dans Chicago quand j'étais élève à Londres. Oui, alors moi, je suis pas danseur. Pour le coup, Jean-Pierre Cassel est un grand danseur de claquettes. Moi, je peux pas danser. Je peux faire semblant, je peux assumer,
dans
je peux assumer quelques gestes.
Oui. Mais l'ouverture dans l'ouverture de votre spectacle.
De mon one-man show, je danse un peu.
Vous dansez un peu.
Je danse. C'est un danseur du Lido, donc c'est surtout les bras.
Oui.
Parce qu'il faut jouer trois fois par jour, donc on fait surtout les bras. Oui. Mais oui, non, j'avais envie, en tout cas, d'être libéré. Puis je mesure 1m85, donc j'avais tendance à jouer avec les coudes collés. J'avais tendance à ne pas faire des grands pas. Et j'ai appris par rapport à la taille de mes bras, par rapport à ma carrure, à aller au bout d'un mouvement, à pas faire les choses petitement, à élargir. C'est la danse qui m'a appris ça.
Qu'est-ce qui a fait que vous êtes rentré en France après cette année-là?
Mais j'avais pas de travail là-bas.
Ouais. Pourtant, vous avez joué, y compris Shakespeare.
Oui, c'est vrai, mais...
Beaucoup de bruit pour rien.
Oui, enfin.
Petit rôle, je sais pas.
Non, c'était pas un petit rôle, mais c'était pas très bien. C'était avec une petite compagnie, bref. Mais bon... J'ai travaillé là-bas, j'ai tourné un peu aussi. Mais il n'y avait pas assez d'opportunités parce que je restais quand même. Alors ils n'arrivaient pas à dire d'où je venais, mais ils entendaient quand même évidemment que j'étais pas anglais. Et donc forcément, ça limitait les possibilités. Et puis en France, j'étais quand même diplômé du conservatoire, donc j'avais le JTN pendant 3 ans et je voulais en profiter.
Ouais. Donc retour.
Retour en France pour profiter du JTN où je n'ai pas décroché un seul rôle pendant presque pendant plus de 2 ans. J'allais à toutes les auditions du JTN et je me forçais parce qu'il y avait des metteurs en scène qui étaient vraiment pas faits pour moi, enfin pour lesquels j'étais pas fait, mais comme je suis intéressé par plein de choses différentes, j'y allais sincèrement, hein. Je me souviens notamment d'une audition pour Pascal Rambert qui était très très intéressante, mais en même temps je sentais que c'était pas ma nature, quoi. J'y allais la fleur au fusil avec l'envie de bien faire, mais je sentais que ça n'était pas pour moi, enfin voilà. Et donc voilà, 2 années assez assez malheureuses au JTN. où j'ai pensé changer de métier même, parce que je me disais, bon, je ne sais pas, pourquoi personne ne veut de moi comme ça, qu'est-ce qui se passe. Donc, je ne comprenais pas trop. Donc, j'ai commencé à réfléchir à d'autres choses et j'ai commencé à écrire. Parce que j'en avais marre d'être dépendant en permanence du désir des autres et je me sentais assez assez humilié par ça en fait. Je n'aime pas cette sensation. Je n'aime pas ce sentiment de me sentir dépendant du désir des autres. Ça me dévalorisait, ça rognait sur ma confiance. En moi, et c'est quelque chose de très très fragile, la confiance en soi, je trouve, chez un acteur, et c'est cet équilibre entre être suffisamment confiant pour oser des choses, être suffisamment souple pour être réceptif aux indications, à l'univers d'un metteur en scène. Enfin, c'est un équilibre fragile, et je sentais que c'était pas bien ce qui se passait. J'attendais trop d'être choisi, j'attendais trop d'être sauvé, Donc j'ai décidé d'écrire parce que je sentais que j'allais trouver une indépendance là-dedans, dans l'écriture.
Et à ce moment-là, donc vous n'avez pas 30 ans quand vous rentrez d'Angleterre, 3 ans entre guillemets perdus au Jeune Théâtre National. Est-ce que d'aucuns, enfin j'exagère peut-être un peu, mais enfin bon, est-ce que personne ne s'était n'avait remarqué votre fantastique vis comica, comme on dit, votre capacité à faire rire?
Mais si, je pense, mais parce que je suis rentré au conservatoire avec une scène du système Ribadier, pour tout vous dire. Ah. Donc si, c'était la comédie qui à chaque fois m'avait fait avancer. Ouais. Mais je pense que j'étais un peu pris à mon propre piège, c'est que à vouloir explorer de nouveaux univers, je m'étais un peu perdu moi-même. Et c'est pour ça aussi que j'étais parti à Londres. J'avais perdu mon côté entertainer, qui était quelque chose que j'assumais moins. Et je me suis trop intéressé à des choses qui ne me correspondaient pas, viscéralement. Mais je ne regrette pas parce que ça m'a enrichi et ça continue à m'enrichir. Mais maintenant, j'essaie de trouver un équilibre. Je ne veux pas tomber dans les mêmes pièges.
Autrement dit, puisque nous sommes ici en train de réaliser une fois de plus cette école d'acteur à quoi on est assez attaché. L'apprentissage a été rude pour vous, finalement?
Oui, assez. Ouais. Hein? Ça a été, disons que j'ai l'impression que rien n'a été facile. Ouais. Qu'en même temps, tout s'est bien passé. Parce que quand on regarde le parcours, bon, je fais l'agressif du cours Florent, je travaille comme comédien, je rentre au conservatoire, je pars à... Je n'ai pas eu des signaux qui m'aurait fait dire tu n'es pas fait pour ce métier. Donc j'ai toujours continué, mais ça n'était jamais facile. J'ai toujours été obligé de prouver pas forcément ce dont j'étais capable. Ça fait un peu coulisses des exploits, mais non, mais en mais tout cas,
l'important c'est de retrouver ses sensations, comme vous savez.
Oui, ah, non, mais oui.
Voilà. Bon. Et comme on dit à Sochi.
Non, mais j'étais aussi victime de ce que je pouvais dégager physiquement. C'est-à-dire que à cette époque-là, je me trouvais ni moche, enfin ni suffisamment moche pour avoir une gueule, ni suffisamment beau pour pouvoir jouer là-dessus, quoi. Ouais. Donc j'avais pas vécu de grands malheurs qui auraient pu m'enrichir. J'étais mais mince, je comprends pas.
Bon,
j'avais pas confiance en moi. En fait, je me sentais pauvre. Je me sentais pauvre, et donc je compensais par le rire. Mais je continue.
Oui. J'espère que ça va un tout petit
c'est
peu.
C'est déprimant
mieux.
Ce que je vous raconte.
Mais c'est bien, reconnaissez que c'est a priori plutôt un contre-emploi. Et c'est très bien. N'empêche que vous jouez une pièce d'Alan Ayckbourn, un anglais.
Ah oui, Gildas Bourdet, qui est le seul metteur en scène qui m'a engagé au JTN. C'était ma dernière audition du JTN. Je n'avais plus accès aux auditions du JTN. J'auditionne pour Gildas Bourdet, qui remontait sa mise en scène qu'il avait faite au Français du Malade Imaginaire. J'auditionne, il m'engage. Comme par hasard, je suis engagé par un des seuls metteurs en scène du théâtre subventionné qui avait créé un pont avec le privé. Il l'a payé cher, d'ailleurs. Enfin voilà, il y avait bon, c'était cohérent. Donc il m'engage et je joue Cléante, oui, au Théâtre de l'Ouest parisien qui venait d'ouvrir et dont il avait pris la direction. Voilà, c'est la rencontre avec Gilles Dasse.
Jean-Marie Besset,
oui, c'est venu après ça. Jean-Marie Besset m'a auditionné pour Le Jour du Destin, une pièce de Michel Del Castillo avec Michel Aumont. Michel Aumont qui fait partie des acteurs que je vénère. Donc j'étais très très content de faire une pièce avec Michel Aumont. Et puis alors j'ai lu la pièce et dès que Michel Aumont rentrait, à chaque fois, mon personnage s'appelait Alonso et il disait « Alonso, allez me chercher le dossier ». À chaque fois, je sortais. Et après, donc il avait toujours une grande scène avec Malavoie ou Loïc Corbery. Et après, il sortait en disant « Je vous laisse avec Alonso ». Il sortait et là, je rentrais. Donc voilà, je n'ai pas joué avec... J'ai joué dans le même spectacle que Michel, mais je n'ai pas joué avec lui.
Oui.
Voilà. Avant Gilles Dasbourdet, non, parce qu'on parlait de s'éloigner de sa nature, explorer des univers, et mais je pensais vraiment arrêter ce métier. Je n'avais pas travaillé pendant 2 ans. Et j'ai un ami qui m'appelle, qui me dit voilà, on monte une comédie qui s'appelle Célibatant. Et on va jouer ça au Mélo d'Amélie. Je ne sais pas si vous connaissez le Mélo d'Amélie, c'est un petit théâtre de comédie qui est dans le quartier de Montorgueil, qui doit faire 100 places, enfin, des banquettes sur lesquelles on peut mettre 100 personnes. Et qui est un tout petit théâtre de comédie. Et franchement, ça m'a déprimé. Je dis, je sors du Conservatoire National en dramatique et je vais aller jouer une pièce qui s'appelle Célibatant au Mélo d'Amélie. Quoi. C'est la fin des haricots. Et pour laquelle il fallait que je fasse une lecture. Ce n'est même pas une proposition ferme. Mais j'y vais, mais avec l'énergie du désespoir. Et j'y vais, je dis, bon, allez, c'est un pote, on se marre, bon, au moins c'est un pote. Je lis la pièce, je suis pris.
Ah, bravo.
Évidemment. Et donc je joue donc au Mélo d'Amélie. Et je ne sais pas comment vous dire que j'ai retrouvé le plaisir de faire ce métier. Je suis reparti grâce à ce spectacle-là. J'étais sur une scène, les gens riaient, on riait entre nous, on faisait ça sérieusement, c'était pas du tout, c'était pas une bouffonnerie, on a fait ça de manière très, très sérieuse, comme souvent, enfin, tout le sérieux qui est nécessaire pour faire une bonne comédie. Et j'ai repris goût à ce métier au Mélo d'Amélie, en sortant du conservatoire. Et j'étais là, et je me dis, mais t'es trop con par snobisme. Ouais. Ça t'a servi à ça, ça t'a servi à devenir snob. Tes études. Donc, ça m'a bien recadré. Et c'est l'énergie, la confiance en soi. J'ai repris confiance en moi. Et comme par hasard, j'ai été engagé par Gilles Dasse dans la foulée parce que j'ai dû passer une audition pendant laquelle j'étais bien, quoi. J'étais heureux parce que j'étais acteur à nouveau. J'étais pas demandeur d'emploi. Donc, une correspondance entre le théâtre de boulevard et ce que j'ai fait au Mélo d'Amélie dans cette pièce. Il y avait ce côté ne pas oublier sa nature profonde, ne pas être snob et prendre du plaisir là où on se reconnaît.
La Comédie Française.
Oui, très.
Où nous nous trouvons.
Oui.
Vous aviez eu comme professeur Buriel Mayette.
Oui.
Quelques 10 ans plus tôt. Et comment se passe, quelle a été, racontez-nous le moment où soit elle vous téléphone, soit elle vous invite, soit elle vous envoie un mot, etc., où elle vous parle de cette maison dont elle est l'administrateur général, l'administratrice générale. Comment ça s'est passé, ça? Vous devez l'avoir en tête bien précisément.
Oui, assez. C'était quand j'ai présenté la cérémonie des Molières. Je revois Muriel à cette occasion. Elle me dit, tu sais Laurent, si un jour tu as envie de te poser un peu dans une troupe, ben, on peut s'en parler.
Gloop.
Tiens. C'est-à-dire. Donc c'est voilà. Je dis, bon, d'accord, oui, effectivement, oui. Moi c'est un endroit qui me faisait rêver depuis très très longtemps. Quand j'étais étudiant, j'habitais dans un petit studio à Palais Royal. Hein, donc ça va, c'était pas...
Je vais pas trop loin, oui.
C'est pas Cosette. Donc tout allait bien. Mais bon, Et le soir, en été, j'aimais bien monter sur les toits, boire des verres avec des copains, et on voyait la coupole de la Comédie Française. Ça, je me dis, je pense qu'ils sont en train de jouer là en dessous du Hugo, ou je sais pas quoi. Et moi, je suis sur mon toit. Ça va pas du tout. Bon, ouais, et puis j'y allais évidemment en tant que spectateur souvent. Et puis j'avais des amis qui étaient rentrés.
Qui, par exemple?
Loïc Corbery, ouais. Avec qui, bah, oui, qui lui avait des scènes avec Michel Aumont.
Bien sûr.
Dans le jour du destin. Guillaume Gallienne, avec qui j'étais à Florent. Jérôme Pouli. Enfin bon, il y en avait pas mal qui. Ouais. Voilà, c'était un endroit qui me faisait rêver depuis très longtemps. Et à un moment, j'avais voulu écrire à Muriel quand elle est devenue administratrice. Mmh. Et puis, pour lui dire que. Bon, et puis, c'est pas très valorisant, ça. D'écrire pour dire si jamais te passer par la tête de m'appeler, sache que bon. Donc je dis bon, on va laisser faire le destin. Bon, bref, elle me parle de ça, et je lui en ai reparlé un peu plus précisément, et puis ça dépendait des disponibilités, des emplois qui allaient se libérer dans la troupe, quoi. Je tourne de l'autre côté du périph, ouais, avec Omar Sy, rue de Richelieu. La langue rue Molière, rue de Richelieu. Mmh. Et on tournait une scène aux Chandelles. Je ne sais pas si vous connaissez les Chandelles, Olivier. C'est un club libertin.
Échangiste.
Voilà, échangiste. Mmh.
Qui est là, par là, dans ce coin-là.
Qui est dans ce coin-là, oui. Ouais. Ouais. Et bref, l'atmosphère était pesante, donc je sortais régulièrement, m'aérer. Et j'étais assis au pied de la statue de Molière, qui est à cet endroit-là, et mon téléphone sonne. Je vois Muriel Mayette, et Muriel me propose d'intégrer la troupe. Donc j'étais assis au pied de Molière.
Donc je me suis retourné, je l'ai.
Merci, copain.
Oui.
J'ai pris en photo avec mon téléphone. Tout de suite après avoir accroché avec Muriel, j'ai pris Molière en photo avec mon téléphone. Et voilà, photo que j'ai pas encore accrochée là, mais que j'ai fait imprimer et que je vais mettre dans ma loge à Richelieu. Et le soir même, j'allais dans son bureau et je signais mon contrat. Mais c'est marrant, au pied de Molière, comme ça. C'est...
Non, c'est magnifique.
Enfin, pour vous dire, j'ai été adoubé, c'est ça que je voulais dire, par Molière. Que Molière était d'accord, c'était juste pour ça.
Oui, oui.
En toute simplicité. Je
m'étonne pas de lui. Et donc, vous voilà ici. Bon, c'est évidemment pour vous un souvenir très dense, très fort, très émouvant. Mmh. Et puis, à un moment, avant, après, je ne sais pas, vous signez un contrat, vous êtes tous et toutes soumis à cette cérémonie, un peu sûrement émouvante. Et puis, pour la première fois, vous allez entrer dans la maison, non plus comme spectateur, mais comme interprète. Mmh. Est-ce que vous vous souvenez de ce jour-là, la première fois que vous êtes entré à Richelieu, non pas encore une fois comme spectateur, mais comme futur interprète?
J'étais assez intimidé, en fait. Oui. Ça m'a rappelé mon premier jour au conservatoire, en fait. Et puis, je suis arrivé aux Français pendant la grève.
Oui.
Il y avait la grève des techniciens. Il y avait une ambiance très particulière. Et j'ai senti, en arrivant, que personne ne m'attendait.
Sauf l'administratrice générale, quand même.
Non, le premier jour de répétition, je ne savais pas où était la salle. Je ne sais pas où est-ce qu'on répétait, quoi. J'ai cherché, je me suis perdu, j'ai trouvé la salle de répétition et je suis arrivé. En plus, c'était une reprise de rôle. Donc j'arrivais.
C'était quoi,
déjà? C'était Le Mariage de Gogol. Mis en scène par Lilo Bore. Je reprenais le rôle de Mamimine, donc j'arrivais face à des gens qui, eux, connaissaient déjà le spectacle. L'avait déjà joué. Donc évidemment, j'avais eu 5 jours pour reprendre le rôle, et j'étais en tournage en même temps. Enfin bon, bref, c'était horrible. C'était horrible. J'avais peur, quoi. J'avais le trac. J'avais le trac et j'avais l'impression de redébuter. J'avais l'impression que tout ce que j'avais fait en dehors n'avait pas de valeur, mais n'avait pas d'importance, on va dire. N'avait pas de
poids.
Je redémarrais, quoi. Ouais. J'ai vraiment l'impression de débuter. Donc c'était un sentiment en même temps assez exaltant et assez terrifiant.
Dans la distribution, certains des comédiens étaient des gens que vous connaissiez déjà.
Oui, Julie Sicard, qui était au conservatoire en même temps que moi. C'est tout. Les autres, je ne les connaissais pas. Je les avais déjà vus jouer, évidemment. Mais...
Et comment s'est effectuée pour vous la connaissance progressive de la soixantaine de comédiens et de comédiennes qui font la troupe ?
Un peu par hasard, dans les couloirs, à la cantine. Ouais. Voilà, des manifestations de sympathie. Ah, c'est bien que tu sois là, ça me fait plaisir. Donc bon, je me sentais pas rejeter. Mais voilà, c'est un endroit où il faut. Je sais pas, vous avez le sentiment que c'est un endroit qui ne, quand je dis qui ne vous attend pas, dans le sens où que vous soyez là ou pas, ça tournera. Cette maison est plus forte que nous tous. Et ça se ressent. Ça se ressent. Et ça donne envie de participer à cette machine, j'allais dire, mais ça déshumanise complètement l'entreprise. Mais
c'est une grosse machine.
Machine. Ouais. Mais voilà, je me suis senti, j'ai senti des gens bienveillants et c'était important pour moi parce que j'avais un parcours un peu atypique par rapport aux gens de cette maison. Donc j'avais besoin de. Et puis ce qui est curieux, c'est que vous êtes engagé par l'administrateur, mais vous ne savez pas si la troupe est heureuse que vous les rejoigniez. À un moment, il se disait, l'administrateur engage, le comité dégage.
Ça arrive, c'est vrai. Ouais.
Voilà, donc vous savez pas. Il y a une personne qui a décidé de vous faire rentrer, mais vous rejoignez 60 autres personnes. Quel est leur avis sur cet engagement? Donc c'est curieux comme situation.
Et certains vous disent des choses, d'autres pas, bien sûr.
Oui, mais... non, moi j'ai senti plutôt... j'étais assez rassuré.
Votre vie change du tout au tout dès lors que vous êtes membre de la Comédie-Française, non?
Alors ça, l'emploi du temps professionnel. J'ai sous-estimé.
Oui,
j'ai sous-estimé ça. Je pensais pas que ça allait vraiment changer. Oui, presque ma vie. Oui. C'est vrai que ça prend beaucoup de temps, mais il y a cette espèce d'excitation d'être débordé. Et débordé par le théâtre, enfin débordé de théâtre plutôt, d'être plein de théâtre. Ça c'est assez enivrant. Du coup, même la fatigue, elle est réjouissante. Ça va.
Comment elle est votre loge?
Je la partage puisque avec qui? Je suis pensionnaire, je la partage avec Clément Hervieux-Léger.
Oui.
Voilà.
Et qu'est-ce que vous avez posé des choses sur le mur, la photo de Molière par exemple?
Alors pas encore, pendant 2 ans je n'ai joué qu'au studio et au Vieux Colombier. C'est mon premier spectacle à Richelieu. Donc là je commence à installer un peu des choses, petit à petit. Oui.
Racontez-moi quand vous répétez le Songe d'une nuit d'été, le texte proprement dit, ce qu'on appelle la brochure, vous y apposez des notes ou jamais?
J'écris pas mal de choses, des déplacements déjà, des indications qui m'ont particulièrement parlé, qui ont déclenché des choses, libéré des questionnements. Oui, je les écris.
C'est de quel ordre? C'est pas par indiscrétion, c'est par intérêt pour le métier qui est le vôtre.
Écoutez, ça peut être un mot, ça peut être juste un adjectif, ça peut ou parfois c'est une indication très 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 précise, ça varie.
Ouais. Et vous reprenez ça, le texte lui-même, vous le répétez toute la journée ou pas? Comment ça se passe?
Pendant j'apprends assez lentement, donc je me fais des italiennes au moment de m'endormir. Généralement, ça marche pas mal.
Ouais.
Quand je fais des italiennes en m'endormant, je me réveille. J'en fais aussi parfois souvent au réveil. Ce sont des moments comme ça où le cerveau est assez perméable, je trouve, pour la mémoire.
Et comment vous débrouillez avec les costumes? Pour un type qui est très physique quand même, comment vous faites avec quand vous vous grimez, etc.? Est-ce que vous vous appréciez ou est-ce que c'est une corvée pour vous? Ou est-ce que ça fait partie du métier?
Vous voulez dire de m'habiller?
Oui, de vous habiller.
J'aime pas trop m'habiller, moi. C'est me changer.
Ouais.
Je m'achète très peu de vêtements parce que j'aime pas les essayer. Donc me changer, bon, c'est. Mais je.
Je parle du costume de scène.
Oui, je sais. Oui. Ouais. Et j'illustrais.
Ouais, très bien. Quel talent.
À propos. C'est le moment où je me concentre, en fait. Je suis pas très méthode. Mais j'ai quand même besoin d'un moment où je passe à autre chose, et c'est le moment où je m'habille et où je me maquille. Donc là, j'ai besoin d'être un peu tranquille.
Ouais.
J'aime pas me faire habiller, par exemple. J'aime pas qu'on vienne me mettre mon faux col, ça m'agace. J'ai besoin de, J'ai besoin d'être tout seul au moment où je m'habille ou je me maquille. J'aime bien ça.
Et quand vous allez sortir de la loge, habillé, maquillé, prêt à entrer en scène, vous allez parler avec vos camarades ou pas du tout ?
Ah oui, bien sûr. Ah bah oui. Ah oui, oui, non, bien sûr.
Est-ce que j'ai entendu le contraire ? C'est pour ça que je vous pose la question.
Oui, oui, ah non, non, je... Oui, 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 bien sûr, si, si, je vais parler, oui. Après, je comprends ce que vous dites. Est-ce que j'ai déjà assez abordé des... C'est peut-être que je n'ai pas encore abordé des rôles qui m'imposaient une discipline différente. Dans ce que j'ai eu à faire jusqu'à présent, je n'ai pas ressenti la nécessité de m'isoler ou de me couper d'une forme de réalité. Ou ne, ouais. j'ai pas eu ce besoin-là encore. Maintenant, peut-être que si j'avais joué Hamlet comme Denis Podaïdès cette saison, peut-être que j'aurais eu besoin d'être un peu tranquille entre ma loge et le plateau, je ne sais pas.
Mais revenons à Ribadier, qui est une expérience récente pour vous, et dont on a tous conservé le souvenir. Vous arrivez au Vieux-Colombier, c'est à 8h ou à 8h30, vous partagez une loge avec Stocker, et vous allez être vraiment face à face ou côte à côte pendant une très grande partie du spectacle. Vous racontez des trucs, vous faites allusion à la représentation de la veille, vous programmez celle du jour, vous dites des choses, vous êtes complètement dans votre univers.
Ah non, on parle beaucoup, on se raconte beaucoup de bêtises avec Laurent, on rit énormément. Non, on se raconte beaucoup, beaucoup de bêtises. Et enfin, on se parle du spectacle aussi, évidemment. Et puis, ce qui est bien, c'est que quand on sent que quelque chose commence à se décaler un petit peu, il n'y a pas d'orgueil. On se dit les choses. Ah, fais gaffe, je trouve qu'à ce moment-là, tu as tendance à prendre un petit peu plus de temps que d'habitude et du coup, ça marche moins. Fais attention parce que si tu bouges à ce moment-là, quand je dis telle phrase, elle passe à la trappe. Faut pouvoir se parler librement.
Donc, oui, en l'occurrence, ça doit être le cas, j'imagine, ça doit être possible.
Bien sûr, après il y a des comédiens qui n'aiment pas trop qu'on vienne leur dire, qu'on vienne leur parler de ce qu'ils font sur le plateau. Donc, ça dépend.
Ouais. Est-ce que vous êtes constamment en attente de quelque chose par rapport aux propositions que peut vous faire cette maison, puisque vous en êtes maintenant vous en êtes réellement. Est-ce que vous vous projetez constamment dans l'espoir de quelque chose ou est-ce que, au fond, vous savez que votre tour viendra ?
Évidemment, j'espère y avoir des beaux rôles et rencontrer des grands metteurs en scène. Je suis venu là pour ça. Je suis pas venu là pour le prestige. Si, enfin, ça fait partie du package, mais je suis pas venu là pour ça. C'est un endroit prestigieux, mais c'est un endroit de théâtre. C'est pas un musée du théâtre. C'est pas une médaille. C'est un engagement. Donc je suis venu là pour avoir de beaux rôles, des grands rôles, et rencontrer des grands metteurs en scène. Si je ne trouve pas ça, je partirai. Ouais. Je serai triste. Mais je partirai.
Vous n'en êtes heureusement pas là.
Non, on me demandera de partir, je ne sais pas. Ce qui est bien au moins, c'est que ça respire ici. Quoi. Ouais. Parce que de l'extérieur, j'ai souvent pensé que c'était un fonctionnement assez cruel. Le fait qu'il y a un comité qui est formé de sociétaires qui décide un peu qui reste, qui s'en va. Mais en même temps, quel autre système pour que cette troupe reste vivante, puisque on va pas partir, on va pas commencer à faire des engagements à vie, ce serait atroce, ce serait complètement sclérosant, et puis on va pas laisser décider le ministère, par exemple, de qui reste et qui s'en va. Donc, il faut que ce soit la troupe qui décide de ça, avec tout ce que ça peut donner comme situation dure. Mais c'est le système le moins pire qui puisse être mis en place. Donc, voilà.
Est-ce que vous avez conscience que la troupe telle qu'elle existe aujourd'hui risque d'apparaître dans les mémoires d'ici 20, 30, 40 ans comme quelque chose d'assez exceptionnel dans l'histoire même de la maison. Tout comme on fait référence aujourd'hui couramment et à juste titre à l'époque Charon, Hirsch, Chamara, Descrières, Jean Pia, Claudie Winter et autres, Denis Jans. Est-ce que vous avez l'impression que c'est quelque chose de cet ordre-là qui se joue en ce moment ? Ou est-ce que vous ne le ressentez pas du tout ?
En tout cas, avant d'intégrer la troupe, en tant que spectateur, je trouvais que effectivement, il y avait une espèce de cohérence qui était en train de s'installer dans la troupe, qui était rare. Mmh. Et c'est ce qui m'a donné aussi envie de l'intégrer quand Muriel me l'a proposé. C'est vrai qu'il y a des acteurs et des actrices assez exceptionnels. Et oui, j'ai l'impression que c'est un... Alors, c'est pas parce que j'y suis, mais j'ai l'impression que c'est un moment assez important, oui. Oui, En tout cas, je trouve la troupe belle et à chaque fois que je vois les spectacles là, des spectacles que j'aime plus ou moins, des mises en scène que je trouve plus ou moins réussies, comme dans n'importe quel théâtre, je trouve que c'est toujours bien joué, en fait, tout simplement.
Et les travaux d'écriture ?
Ben là, c'est un peu en suspens parce que j'ai pas le temps. Et puis, pour le coup, autant je peux faire, en tant que comédien, je peux faire plusieurs choses en même temps. Et avant d'être ici, d'ailleurs, quand j'ai joué mon one-man show, je jouais en même temps des gens. Ouais. Un spectacle sur De Pardon qu'on avait fait avec Zabou. Ouais. Je jouais des gens à 19h30 et je jouais mon one-man show à 21h30. Donc, ça, en tant que comédien, je peux faire plein de choses en même temps. Il n'y a pas de souci. Pour écrire, je peux pas. Il faut vraiment que j'ai besoin d'avoir mon cerveau mobilisé uniquement pour l'écriture. C'est pas le même endroit de créativité.
Ouais. Tout à l'heure, à 22h30 ou 23h, je ne sais pas, vous allez donc quitter le plateau sous les applaudissements et vous regagnez votre loge. Ouais.
Ou les huées.
On va parier que c'est comme ça que ça se passera, ce qui est assez probable, voire quasi certain. Donc vous allez, vous retournez dans votre loge. Bon. Il y a un moment là de décompression, de solitude, de je sais pas, bon, bref. Et puis vous allez sortir dans la rue, au milieu de la nuit. Bon. À ce moment-là, vous avez envie d'être seul ou au contraire de regagner le monde ?
Non, j'ai jamais envie d'être seul, de toute façon. Donc, enfin, très rarement. Non, j'ai pas du tout envie de. Non, j'ai pas envie d'être seul à ce moment-là. Non, je préfère rester un peu avec les camarades ou. J'ai pas envie que ça s'arrête comme ça brutalement. Mais c'est une excitation particulière quand même. Enfin, ça paraît naturel de monter sur scène. Non, mais il y a une décharge d'adrénaline, même si on le fait tous les soirs, qui est là et il faut que ça redescende. Il faut que ça retombe.
Si des gens viennent vous parler dans votre loge, des spectateurs, des admirateurs, ça vous gêne ou au contraire ça vous exalte dans ces moments-là ?
Ça a plutôt tendance à me gêner. Ouais. Mais en même temps, moi, quand je fais des compliments à un acteur, s'il ne sait pas les recevoir, je trouve ça désagréable. Donc, j'ai appris à recevoir les compliments, de manière sympathique. Et... voilà. Donc, j'écoute vraiment et je... Oui. Je suis vraiment. En plus, ça me fait plaisir. C'est vrai, évidemment, ça fait plaisir. Mais ça met un petit peu mal à l'aise. Mais bon, mais c'est voilà, je suis bien élevé.
Bon jeune homme. ce qu'on est en train de se dire là, j'allais dire sans témoin, sans trop de témoins en tout cas.
Presque.
C'est quelque chose qui. Répondez-moi, Jean, franchement, ça vous ennuie ou pas ?
Non, alors ça ne m'ennuie pas parce que j'adore parler de mon métier. Maintenant, j'ai pas l'impression d'être très intéressant. Enfin, je veux dire, sans fausse modestie, je ne sais pas si c'est intéressant d'écouter parler un acteur. Non, mais comprenez-moi. En tout cas, je pense que notre fonction n'est pas de parler nos mots. Voilà, c'est Après, on a des anecdotes, c'est un métier un peu mystérieux, assez fascinant, donc évidemment, c'est un échange avec le public, c'est normal de raconter des choses, de partager des expériences, puisque ce sont des aventures qu'on partage tout le temps avec le public, donc on peut la partager encore plus. Ouais. Mais j'ai l'impression de ne pas être dans ma fonction.
Mais d'un autre côté, qui va nous dire ça sinon vous-même ?
Non, mais bien sûr. Mais je comprends l'intérêt, mais après c'est ce que je ressens dans cet exercice-là.
Ok. Mais vous vous doutez bien que pour parler de choses toutes récentes, puisque les événements nous ont un petit peu fait précipiter ces rencontres. Bon, entre ce que peut dire Didier Sandre, Denis Podalydès et vous-même, évidemment, ça n'a absolument rien de commun. Vous exercez la même profession.
Mais oui,
je
sais.
Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit du tout.
Mm-hmm. Non, mais bien sûr, de toute façon, il n'y a pas de parcours type. Ouais. Enfin, on a tous un parcours différent. Mais c'est vrai que moi, je ne suis pas un acteur... Je suis pas un acteur intellectuel. Enfin, je ne suis pas... Je ne sais pas comment dire.
Si, vous l'avez dit.
Encore une fois, quand on, oui, quand on reparle de la base, moi, c'est vraiment, je viens de l'entertainment.
Ouais.
Mais et je veux rester là-dedans, dans le sens où j'ai envie de donner du plaisir aux gens, quelle que soit la complexité d'un texte. Voilà, j'ai un souci d'efficacité.
Ça nous ramène aux Anglo-Saxons, ça.
Oui.
Hein ?
Mon baromètre en tant que spectateur, c'est l'ennui. À partir du moment où je m'ennuie, pour moi, l'exercice est raté. Que ce soit la mise en scène ou le texte le plus intelligent du monde, avec les meilleurs acteurs du monde, si je m'ennuie, c'est raté. Voilà, ça, c'est mon baromètre.
Mais... Là, vous ne vous ennuyez pas tout le temps depuis une heure et demie qu'on est sur ce plateau.
Non, pas du tout. Je vous parle en tant que spectateur quand je vois un spectacle. Je ne veux pas ennuyer les gens quand je suis sur scène. Voilà.
Écoutez,
ça passe pas forcément par la comédie, hein, mais je.
Ben ça, bien sûr. Ouais. Vous n'avez pas joué que la comédie. Il suffit de vous.
Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a certains metteurs en scène qui n'ont pas ce souci-là.
Des noms.
Non, mais ça peut être voilà. Non, mais il faut pas avoir de snobisme par rapport à l'efficacité. Je pense qu'on fait un métier où il faut être efficace.
Il me semble que vous l'êtes assez, à vrai dire.
Efficace. J'essaye.
Bon, alors on va vous libérer, hein, parce que le devoir vous appelle. Le devoir, c'était d'être avec nous pendant 7h15 et 7h20. Je crois que ça a été beaucoup plus intéressant que vous ne le redoutiez.
Je ne sais pas.
Et beaucoup plus enrichissant pour nous tous. Mais le devoir vous appelle à Richelieu et William Shakespeare et votre metteur en scène, qui est une femme, elle aussi. Donc, on va très légèrement abréger et vous remercier et vous dire que nous sommes tous ici à vous attendre.
C'est censé me rassurer, ça ?
On vous attend.
Et nous ne sommes pas du tout la pression.
Nous, on est beaucoup moins inquiets que vous. Hein ? Merci Laurent.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci.
C'était Comédie Française, École d'acteurs. Olivier Barrault s'entretenait avec Laurent Lafitte. Prise de son, Yves Lehorse. Réalisation, Clotilde Pivin.